Les Cenci, nouvelles de Stendhal. Introduction. Le Don Juan de Molière est galant sans doute, mais avant tout il est homme de bonne compagnie. Avant de se livrer au penchant irrésistible qui l'entraîne vers les jolies femmes, il tient à se conformer à un certain modèle idéal. Il veut être l'homme qui serait souverainement admiré à la cour d'un jeune roi galant et spirituel. Le Don Juan de Mozart est déjà plus près de la nature et moins français, il pense moins à l'opinion des autres. Il ne songe pas avant tout à paraître, comme dit le baron de Feneste de Daubigny. Nous n'avons que deux portraits du Don Juan d'Italie, tel qu'il dut se montrer en ce beau pays au XVIe siècle, au début de la civilisation renaissante. De ces deux portraits, il en est un que je ne puis absolument faire connaître. Le siècle est trop « collémonté », entre guillemets. Il faut se rappeler ce grand mot que j'ai ouï répéter bien des fois à Lord Byron, « This age of Kant ». Cette hypocrisie si ennuyeuse et qui ne trompe personne a l'immense avantage de donner quelque chose à dire aux sots. Ils se scandalisent de ce qu'on a osé dire telle chose, de ce qu'on a osé rire de tel autre, etc. Son désavantage est de raccourcir infiniment le domaine de l'histoire. Si le lecteur a le bon goût de me le permettre, je vais lui présenter en toute humilité une notice historique sur le second des Don Juan, dont il est possible de parler en 1837. Il se nommait François Cenci. Pour que le Don Juan soit possible, il faut qu'il y ait de l'hypocrisie dans le monde. Le Don Juan eût été un effet sans cause dans l'Antiquité. La religion était une fête, elle exhortait les hommes au plaisir. Comment aurait-elle flétri des êtres qui faisaient d'un certain plaisir leur unique affaire? Le gouvernement seul parlait de s'abstenir. Il défendait les choses qui pouvaient nuire à la patrie, c'est-à-dire à l'intérêt bien entendu de tous, et non ce qui peut nuire à l'individu qui agit. Tout homme qui avait du goût pour les femmes et beaucoup d'argent pouvait donc être un Don Juan dans Athènes. Personne n'y trouvait à redire. Personne ne professait que cette vie est une vallée de larmes et qu'il y a du mérite à se faire souffrir. Je ne pense pas que le Don Juan athénien pût arriver jusqu'au crime aussi rapidement que le Don Juan des monarchies modernes. Une grande partie du plaisir de celui-ci consiste à braver l'opinion, et il a débuté dans sa jeunesse par s'imaginer qu'il bravait seulement l'hypocrisie. Violer les lois dans la monarchie à la Louis XV, tirer un coup de fusil à un couvreur et le faire dégringoler du haut de son toit, n'est-ce pas une preuve que l'on vit dans la société du prince, que l'on est du meilleur ton et que l'on se moque fort du juge? Se moquer du juge, n'est-ce pas le premier pas, le premier essai du tout petit Don Juan qui débute? Parmi nous, les femmes ne sont plus à la mode. C'est pourquoi les Don Juan sont rares. Mais quand il y en avait, ils commençaient toujours par chercher des plaisirs fort naturels, tout en se faisant gloire de braver ce qui leur semblait des idées non fondées en raison dans la religion de leurs contemporains. Ce n'est que plus tard, et lorsqu'il commence à se pervertir, que le Don Juan trouve une volupté exquise à braver les opinions qui lui semblent à lui-même justes et raisonnables. Ce passage devait être fort difficile chez les anciens, et ce n'est guère que sous les empereurs romains, et après Tibère et Capré, que l'on trouve des libertins qui aiment la corruption pour elle-même, c'est-à-dire pour le plaisir de braver les opinions raisonnables de leurs contemporains. Ainsi, c'est à la religion chrétienne que j'attribue la possibilité du rôle satanique de Don Juan. C'est sans doute cette religion qui enseigna au monde qu'un pauvre esclave, qu'un gladiateur avait une âme absolument égale en faculté à celle de César lui-même. Ainsi, il faut la remercier de l'apparition des sentiments délicats. Je ne doute pas, au reste, que tôt ou tard ces sentiments ne se fussent fait jour dans le sein des peuples. L'Énéide est déjà bien plus tendre que l'Iliade. La théorie de Jésus était celle des philosophes arabes, ses contemporains. La seule chose nouvelle qui se soit introduite dans le monde à la suite des principes prêchés par saint Paul, c'est un corps de prêtre absolument séparé du reste des citoyens et même ayant des intérêts opposés. Ce corps fit son unique affaire de cultiver et de fortifier le sentiment religieux. Il inventa des prestiges et des habitudes pour émouvoir les esprits de toutes les classes, depuis le pâtre inculte jusqu'au vieux courtisan blasé. Il sut lier son souvenir aux impressions charmantes de la première enfance. Il ne laissa point passer la moindre peste ou le moindre grand malheur sans en profiter pour redoubler la peur et le sentiment religieux, ou tout au moins pour bâtir une belle église comme la Salute à Venise. L'existence de ce corps produisit cette chose admirable. Le pape saint Léon, résistant sans force physique au féroce Attila et à ces nuées de barbares qui venaient d'effrayer la Chine, la Perse et les Gaules. Ainsi la religion, comme le pouvoir absolu tempéré par des chansons, qu'on appelle la monarchie française, a produit des choses singulières que le monde n'eût jamais vues peut-être s'il eût été privé de ces deux institutions. Parmi ces choses bonnes ou mauvaises, mais toujours singulières et curieuses, et qui eussent bien étonné Aristote, Polybe, Auguste et les autres bonnes têtes de l'Antiquité, je place sans hésiter le caractère tout moderne du Don Juan. C'est, à mon avis, un produit des institutions ascétiques des papes venus après Luther. Car Léon X et sa cour, en 1506, suivaient à peu près les principes de la religion d'Athènes. Le Don Juan de Molière fut représenté au commencement du règne de Louis XIV, le 15 février 1665. Ce prince n'était point encore dévot, et cependant la censure ecclésiastique fit supprimer la scène du pauvre dans la forêt. Cette censure, pour se donner des forces, voulait persuader à ce jeune roi, si prodigieusement ignorant, que le mot janséniste était synonyme de républicain. L'original est d'un Espagnol, Tirso de Molina. Une troupe italienne en jouait une imitation à Paris vers 1664 et faisait fureur. C'est probablement la comédie du monde qui a été représentée le plus souvent. C'est qu'il y a le diable et l'amour, la peur de l'enfer et une passion exaltée pour une femme, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus terrible et de plus doux aux yeux de tous les hommes, pour peu qu'ils soient au-dessus de l'état sauvage. Il n'est pas étonnant que la peinture du Don Juan ait été introduite dans la littérature par un poète espagnol. L'amour tient une grande place dans la vie de ce peuple. C'est là-bas une passion sérieuse et qui se fait sacrifier haut la main toutes les autres et même, qui le croirait, la vanité. Il en est de même en Allemagne et en Italie. À le bien prendre, la France seule est complètement délivrée de cette passion qui fait faire tant de folie à ses étrangers. Par exemple, épouser une fille pauvre, sous le prétexte qu'elle est jolie et qu'on en est amoureux. Les filles qui manquent de beauté ne manquent pas d'admirateurs en France. Nous sommes gens avisés. Ailleurs, elles sont réduites à se faire religieuses, et c'est pourquoi les couvents sont indispensables en Espagne. Les filles n'ont pas de dot en ce pays et cette loi a maintenu le triomphe de l'amour. En France, l'amour ne s'est-il pas réfugié au cinquième étage, c'est-à-dire parmi les filles qui ne se marient pas avec l'entremise du notaire de la famille? Il ne faut point parler du Don Juan de Lord Byron. Ce n'est qu'un faux Blas, un beau jeune homme insignifiant et sur lequel se précipitent toutes sortes de bonheurs invraisemblables. C'est donc en Italie et au XVIe siècle seulement qu'a dû paraître pour la première fois ce caractère singulier. C'est en Italie et au XVIIe siècle qu'une princesse disait, en prenant une glace avec délice le soir d'une journée fort chaude, « Quel dommage que ce ne soit pas un péché !» Ce sentiment forme suivant moi la base du caractère de Don Juan, et comme on voit la religion chrétienne lui est nécessaire. Sur quoi un auteur napolitain s'écrit, entre guillemets, « N'est-ce rien que de braver le ciel et de croire qu'au moment même le ciel peut vous réduire en cendres ? De là l'extrême volupté, dit-on, d'avoir une maîtresse religieuse et religieuse remplie de piété, sachant fort bien qu'elle fait mal et demandant pardon à Dieu avec passion comme elle pêche avec passion. » Supposons un chrétien extrêmement pervers, né à Rome, au moment où le sévère Pie V venait de remettre en honneur ou d'inventer une foule de pratiques minutieuses absolument étrangères à cette morale simple qui n'appelle vertu que ce qui est utile aux hommes. Une inquisition inexorable et tellement inexorable qu'elle dura peu en Italie et dut se réfugier en Espagne, venait d'être renforcée et faisait peur à tous. Pendant quelques années, on attacha de très grandes peines à la non-exécution ou au mépris public de ces petites pratiques minutieuses, élevées au rang des devoirs les plus sacrés de la religion. Il aura haussé les épaules en voyant l'universalité des citoyens trembler devant les lois terribles de l'Inquisition. « Eh bien, se sera-t-il dit, je suis l'homme le plus riche de Rome, cette capitale du monde. » Je vais en être aussi le plus brave. Je vais me moquer publiquement de tout ce que ces gens-là respectent et qui ressemble si peu à ce qu'on doit respecter. Car un Don Juan, pour être tel, doit être homme de cœur et posséder cet esprit vif et net qui fait voir clair dans les motifs des actions des hommes. François Sensi se sera dit, entre guillemets, par quelles actions parlantes, moi, Romain, né à Rome en 1527, précisément pendant les 6 mois durant lesquels les soldats luthériens du connétable de Bourbon y commirent, sur les choses saintes, les plus affreuses profanations, par quelles actions pourrais-je faire remarquer mon courage et me donner le plus profondément possible le plaisir de braver l'opinion? Comment étonnerais-je mes sots contemporains? Comment pourrais-je me donner le plaisir si vif de me sentir différent de tout ce vulgaire ? Il ne pouvait entrer dans la tête d'un Romain et d'un Romain du Moyen-Âge de se borner à des paroles. Il n'est pas de pays où les paroles hardies soient plus méprisées qu'en Italie. L'homme qui a pu se dire à lui-même ces choses se nommait François Sensi. Il a été tué sous les yeux de sa fille et de sa femme le 15 septembre 1598. Rien d'aimable ne nous reste de ce Don Juan. Son caractère ne fut point adouci et amoindri par l'idée d'être, avant tout, homme de bonne compagnie, comme le Don Juan de Molière. Il ne songeait aux autres hommes que pour marquer sa supériorité sur eux, s'en servir dans ses desseins ou les haïr. Le Don Juan n'a jamais de plaisir par les sympathies, par les douces rêveries ou les illusions d'un cœur tendre. Il lui faut, avant tout, des plaisirs qui soient des triomphes, qui puissent être vus par les autres, qui ne puissent être niés. Il lui faut la liste déployée par l'insolent Leporello aux yeux de la triste Elvire. Le Don Juan romain s'est bien gardé de la maladresse insigne de donner la clé de son caractère et de faire des confidences à un laquais, comme le Don Juan de Molière. Il a vécu sans confident, et n'a prononcé de paroles que celles qui étaient utiles pour l'avancement de ses desseins. Nul ne vit en lui de ces moments de tendresse véritable et de gaieté charmante qui nous font pardonner au Don Juan de Mozart. En un mot, le portrait que je vais traduire est affreux. Par choix, je n'aurais pas raconté ce caractère, je me serais contenté de l'étudier, car il est plus voisin de l'horrible que du curieux. Mais j'avouerai qu'il m'a été demandé par des compagnons de voyage auxquels je ne pouvais rien refuser. En 1823, j'eus le bonheur de voir l'Italie avec des êtres aimables et que je n'oublierai jamais. Je fus séduit comme eux par l'admirable portrait de Béatrix Sensi que l'on voit à Rome au palais Barberini. La galerie de ce palais est maintenant réduite à 7 ou 8 tableaux, mais 4 sont des chefs-d'œuvre. C'est d'abord le portrait de la célèbre Fornarina, la maîtresse de Raphaël, par Raphaël lui-même. Ce portrait, sur l'authenticité duquel il ne peut s'élever aucun doute, car on trouve des copies contemporaines, est tout différent de la figure qui, à la galerie de Florence, est donnée comme le portrait de la maîtresse de Raphaël et a été gravée sous ce nom par Morgan. Le portrait de Florence n'est pas même de Raphaël. En faveur de ce grand nom, le lecteur voudra-t-il pardonner à cette petite digression? Le second portrait précieux de la galerie Barberini est du guide. C'est le portrait de Béatrice Cenci, dont on voit tant de mauvaises gravures. Ce grand peintre a placé sur le cou de Béatrix un bout de draperie insignifiant. Il l'a coiffée d'un turban. Il eût craint de pousser la vérité jusqu'à l'horrible s'il eût reproduit exactement l'habit qu'elle s'était fait faire pour paraître à l'exécution et les cheveux en désordre d'une pauvre fille de 16 ans qui vient de s'abandonner au désespoir. La tête est douce et belle, le regard très doux et les yeux fort grands. Ils ont l'air étonnés d'une personne qui vient d'être surprise au moment où elle pleurait à chaudes larmes. Les cheveux sont blonds et très beaux. Cette tête n'a rien de la fierté romaine et de cette conscience de ses propres forces que l'on surprend souvent dans le regard assuré d'une fille du Tibre, di una figlia del Tevere, disent-elles d'elle-même, avec fierté. Malheureusement, les demi-teintes ont poussé au rouge de brique pendant ce long intervalle de 238 ans qui nous sépare de la catastrophe dont on va lire le récit. Le troisième portrait de la galerie Barberini est celui de Lucrèce Petroni, belle-mère de Béatrix, qui fut exécutée avec elle. C'est le type de la matrone romaine dans sa beauté et sa fierté naturelle. Les traits sont grands et la carnation d'une éclatante blancheur, les sourcils noirs et fort marqués, le regard est impérieux et en même temps chargé de volupté. C'est un beau contraste avec la figure si douce, si simple, presque allemande de sa belle-fille. Le quatrième portrait, brillant par la vérité et l'éclat des couleurs, est l'un des chefs-d'œuvre du Titien. C'est une esclave grecque qui fut la maîtresse du fameux doge Barbarigo. Presque tous les étrangers qui arrivent à Rome se font conduire dès le commencement de leur tournée à la galerie Barberini. Ils sont appelés, les femmes surtout, par les portraits de Béatrix Cenci et de sa belle-mère. J'ai partagé la curiosité commune. Ensuite, comme tout le monde, j'ai cherché à obtenir communication des pièces de ce procès célèbre. Si on a ce crédit, on sera tout étonné, je pense, en lisant ces pièces, où tout est latin, excepté les réponses des accusés, de ne trouver presque pas l'explication des faits. C'est qu'à Rome, en 1599, personne n'ignorait les faits. J'ai acheté la permission de copier un récit contemporain. J'ai cru pouvoir en donner la traduction sans blesser aucune convenance. Du moins, cette traduction put-elle être lue tout haut devant des dames en 1823. Il est bien entendu que le traducteur cesse d'être fidèle lorsqu'il ne peut plus l'être. L'horreur l'emporterait facilement sur l'intérêt de curiosité. Le triste rôle du Don Juan pur, celui qui ne cherche à se conformer à aucun modèle idéal et qui ne songe à l'opinion du monde que pour l'outrager, est exposé ici dans toute son horreur. Les excès de ses crimes forcent deux femmes malheureuses à le faire tuer sous leurs yeux. Ces deux femmes étaient l'une son épouse et l'autre sa fille, et le lecteur n'osera décider si elles furent coupables. Leurs contemporains trouvèrent qu'elles ne devaient pas périr. Je suis convaincu que la tragédie de Galeotto Manfredi, qui fut tué par sa femme, sujet traité par le grand poète Monti, et tant d'autres tragédies domestiques du XVe siècle, qui sont moins connues et à peine indiquées dans les histoires particulières des villes d'Italie, finirent par une scène semblable à celle du château de Petrella. Voici la traduction du récit contemporain. Il est en italien de Rome et fut écrit le 14 septembre 1599.